des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, première émission de l'année, que je vous souhaite d'ailleurs exceptionnelle sur tous les plans. Cette semaine, une rencontre entre deux écrivains que l'Atlantique sépare, mais que l'art de la fresque réunit. Et aussi les yeux doux que leur font le cinéma ou l'univers des séries, plus que sensibles à leur haut sens du romanesque, je dirais même leur romanesque échevelé. Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, est avec nous pour son nouveau roman « Miroir de nos peines » chez Albin Michel, pour lequel il remercie d'ailleurs Albert Dupontel, l'homme qui a porté « Au revoir là-haut » à l'écran. Et nous sommes aussi avec Gary Steingart, l'inoubliable auteur de « Super triste histoire d'amour », lui aussi pour son nouveau roman « Lake Success » aux éditions de l'Olivier, qui est le road movie d'un milliardaire à travers l'Amérique pré-Trump et qui sera adapté en série, si j'ai bien lu, pour HBO, par HBO avec Jake Gyllenhaal. Bonjour Gary Steingart.
Hello.
Mais j'attendais votre traduction, Michel Zutowski.
Voilà,
hello. Michel Zutowski qui sera votre interprète pendant cette émission. Bonjour Michel. Et bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Alors Pierre Lemaître, c'est une proposition indécente qui ouvre votre livre, celle que l'on fait à une serveuse dans un restaurant par un client habituel, un homme pourtant âgé, ou peut-être d'ailleurs à cause de ça. C'est peut-être pour ça qu'il fait cette proposition. Il est docteur en plus. Et il lui propose à cette jeune fille de lui offrir une somme d'argent pour l'avoir nue. Ce qu'elle fait après certaines hésitations dans la chambre d'hôtel qu'il a réservée pour eux, et où, alors qu'elle se tourne pour lui faire admirer ses fesses, il se tire une balle dans la tête. C'est un événement brutal, fondateur, qui va précipiter votre héroïne dans la rue, nue, en pleine France, une France qui est elle aussi à la rue. On est en effet en 1940, et Miroir de nos peines est aussi le miroir des souffrances d'un pays dans une époque que nous devrions peut-être un peu plus regarder en détail. Vous nous la donnez à voir, cette période, sous toutes les coutures. Ça commence en avril 40, juste avant le début des hostilités, et puis ça déborde et on va se retrouver en plein cœur des hostilités de 40. Dans ce roman, on retrouve donc Louise, parce qu'il s'agit d'elle, Louise Belmont, qu'on avait croisée enfant dans Au revoir là-haut, lorsqu'elle rendait visite à Édouard Péricourt, qui logeait chez elle. La voilà donc qui revient après cet épisode violent, qui rouvre en elle la blessure de l'abandon d'Edouard et qui va partir sur les traces d'un parent qu'elle se découvre. Je m'arrête là. Je parlais de fresques. Vous nous promenez, Pierre Lemaître, de la ligne Maginot à Paris, des troquets au cabinet ministériel, des camps de prisonniers aux routes de l'Exode. Les Allemands sont là aussi, ils menacent, ils frappent parfois. Mais c'est avant tout, dirait-on, cette France prise de panique qui vous intéresse. Celle de la débâcle, celle de l'Exode, celle de la débrouillardise aussi. Du courage personnel d'ailleurs, plus que des grandes prouesses militaires. D'autres personnages peuplent cette fresque, toujours haut en couleur, un peu escroc, un peu charlatan, mais de plus en plus sympathique à mesure que vous nous permettez de faire leur connaissance. Il y a par exemple Raoul Landret, militaire qui pense avant tout à escroquer l'armée, mais qui n'est pas moins capable de bravoure quand il s'agit de détruire un pont, par exemple, pour ralentir l'armée ennemie, ou de sauver la mise à un camarade, ou encore le fameux Désiré Migaud, qui change d'identité comme de chemise, qui se fait passer parfois pour un professeur, parfois pour un avocat, un pilote, un chirurgien, un directeur de propagande aussi, et enfin en curé, qui cuisine son propre latin et qui improvise des versets selon les besoins du moment. Cette fresque, vous l'avez commencée en 2013 avec Au revoir là-haut, qui a donc été adaptée, je le disais, au cinéma par Albert Dupontel. En 2018, vous l'avez poursuivie avec Couleur de l'incendie. C'est le point final, Miroir de nos peines. Pourquoi déjà ?
D'abord parce que les meilleures choses ont une fin. D'abord parce que le projet que j'ai constitué à partir de Couleur de l'incendie comprenait ces trois volumes, ces trois décennies. Je pense qu'il y a une somme romanesque qui a sa propre cohérence. Donc j'ai pas envie de l'étirer. Alors je vais sans doute poursuivre ce travail sur les 30 Glorieuses maintenant, mais ce sera un autre volet du travail. Voilà, j'ai l'impression que l'objet littéraire avait trouvé sa complétude.
Est-ce qu'on est triste quand on achève comme ça une trilogie trilogie, même si on peut dire peut-être les plus jeunes des personnages pourront revenir, mais il y en a beaucoup qui pourront pas revenir.
Oui, il y en a beaucoup qui pourront pas revenir. Alors, vous savez, c'est un sentiment très mêlé, parce que à la fois, il y a un peu de soulagement à terminer quelque chose qui m'a pris 6 années de ma vie de romancier, donc c'est, il y a un peu de soulagement, mais en même temps, c'est vrai que je vois partir les personnages d'une manière un petit peu, je dirais, paradoxale. Certains, je les vois partir avec regret parce que ils n'ont pas épuisé leur potentiel narratif, et d'autres ont épuisé, je crois, ce qu'ils pouvaient dire, et cela, je les remercie, mais enfin, il est quand même temps qu'ils prennent leur retraite, quoi, puisqu'on en parle en ce moment.
Lequel, si on doit en citer un, n'a pas épuisé son
potentiel? Je pense que Désiré est inépuisable, ouais. Vous en parliez tout à l'heure, c'est un personnage à peu près inépuisable, il m'a fait beaucoup rire, il m'a beaucoup amusé, il m'a beaucoup plu, et puis en même temps, il est le personnage qui dit la vérité du roman à la fin, et je trouve qu'il y a, quelque chose d'un peu angélique dans ce personnage, et j'ai l'impression que je pouvais encore lui trouver des aventures, mais bon, je vais pas non plus après Au revoir là-haut, faire Au revoir là-haut 2, et puis après Miroir de nos peines, le fils de Miroir de nos peines, où Miroir de nos peines fait du ski, vous voyez, il faut s'arrêter, quoi.
Désiré, vous en parliez, vous le citez dans les remerciements, un effet Désiré.
Oui, alors je me suis amusé, notamment, je m'amuse tout le long du livre, mais je me suis amusé dans les remerciements et dans l'épilogue à inventer un certain nombre de références. Alors j'en invente une, je ne sais pas si vous êtes assez cinéphile.
Justement, j'ai pas trouvé.
Oui, Christophe, vous n'avez pas trouvé. Alors j'ai cité à un moment un fait d'armes de Désiré qui est en fait le nom du personnage joué par Lino Ventura dans L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Alors il y a eu une évasion très spectaculaire, très étrange dans ce film, et je l'attribue à Désiré. Comme ça, c'est ma manière à moi, comme ça, de tisser des fils.
Et à Barthes, non, aussi?
Ah oui, il y a Barthes, oui, aussi à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu mythologique dans la façon dont Désiré empoignait le monde, et je trouvais que c'était assez logique que dans ces mythologies, Barthes ait salué mon personnage.
Voilà.
Bon, c'est pas de l'immodestie, c'est avant tout du jeu. J'espère que tout le monde l'entend.
On voit le jeu. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, mais vous aimez aussi vous adresser au lecteur, vous aimez utiliser des petits jeux narratifs. Ça paraît difficile à croire, mais voilà, gros, je vous dis,
donc
c'est vrai.
Oui, il y a un truc que j'aime bien, ça vous a fait rire, mais quand je fais l'épilogue sur Désiré, je dis, je vais pas vous raconter d'histoire.
C'est ça.
Je trouve que de la part d'un romancier, c'est quand même un aveu qui mérite.
Oui, parce qu'on aime bien. Puis on sait maintenant, depuis le livre Sapiens de Harari, que ce sont les histoires qu'on se raconte qui ont permis à Sapiens, finalement, d'être encore parmi nous.
Exactement.
Aujourd'hui, j'en ai deux, j'en ai même trois. Alors, il y a Gary Stengart aussi. Gary Stengart, dont j'avais adoré. Vraiment, je suis très content qu'il soit là, parce que j'aime beaucoup Like Success. On va en parler, mais j'avais vraiment adoré Super Sad Love Story, super triste histoire d'amour, qui nous parlait d'un temps de l'avenir, qui était un roman d'anticipation, mais où il n'y avait même plus besoin de brûler les livres parce qu'ils seraient gênants. Mais en fait, les livres étaient considérés par l'époque, donc dans quelques années, comme des porteurs de maladies, des objets qui, entre leurs pages, finalement gardent des germes. Donc celui qui a des livres est vraiment le pire des êtres humains, quelqu'un qui vivrait parmi les microbes et les bactéries. Et ce monde-là, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, dans Super Sad Love Story, vous parliez aussi d'un monde où les gens se promènent avec une sorte de petit appareil autour du cou qui répand en temps réel leurs données physiologiques, combien ils gagnent. Donc ils entrent, Pierre Lemaitre, si vous n'avez pas lu ce livre, dans un bar, et vous savez en fait combien gagne le type qui est entré, s'il est sain, ce qu'il aime, etc., pour savoir si vous allez éventuellement entreprendre, déjà de commencer à lui parler. Voilà, et ce monde-là, on y est presque. Voilà, le règne des data que vous avez anticipé. Alors là, avec Lake Success, votre nouveau roman, Gary Stengart, on est aujourd'hui, ça se passe, il y a quelques années, c'est dans l'Amérique pré-Trump exactement, et en fait on va suivre un homme dans la grande gare de Port Authority à New York qui s'apprête à prendre en bus, un Greyhound en fait, pour sillonner les États-Unis, pour peut-être aller rejoindre quelqu'un, on le saura plus tard. Et c'est un homme, un héros qui n'est pas vraiment habitué à prendre les bus de la compagnie Greyhound. Il s'appelle Barry Cohen et je vous cite, Barry Cohen, homme aux 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, entra d'un pas chancelant dans la gare routière de Port Authority. Cet homme vient de quitter son appartement de Manhattan à plusieurs millions de dollars. Il est un peu ivre, il est blessé. C'est sa femme et la nounou de son fils atteint d'autisme qui l'ont blessé. Il ne porte avec lui qu'une valise pleine de montres extrêmement onéreuses. Et il fuit, peut-être pour retrouver un ancien amour du côté d'El Paso. Et en fait, cet homme va vivre un périple qui le mènera non pas dans une Amérique à la Kerouac, même si ce personnage se vit un peu comme un avatar de Sal Paradise dans Sur la route de Kerouac, va le mener à Baltimore, à Richmond, à Atlanta, à Jackson, à la découverte d'une autre Amérique, celle qui vit loin des gratte-ciels de New York, celle aussi qui vote Trump, omniprésent dans ce livre. Une Amérique, écrivez-vous, plongée dans l'ennui d'un pays belliqueux, sans véritable guerre à livrer. C'est un peu le contraire de la France de Pierre Lemaitre. Une expression qui dit aussi l'une de vos caractéristiques, le mordant, l'ironie, l'observation en un mot d'une Amérique complètement paumée. Voilà sur quoi repose la moitié de cette fresque de l'Amérique contemporaine qu'est Lake Success. L'autre moitié, par chapitre alterné, étant consacrée à l'épouse de ce héros, Sima, fille d'immigrants de Bombay. Elle est restée à New York pour s'occuper de Shiva, leur fils autiste, avec une armée de serviteurs. Et elle va, elle, s'embarquer dans une autre forme d'aventure avec un voisin qui se trouve être un écrivain assez glamour. Donc c'est une fresque multipanoramique que vous nous offrez, aux airs de néo-bûcher des vanités, mais où on se perdrait pas seulement dans le Bronx, mais dans l'Amérique entière. On n'est pas dans le futur, je le disais tout à l'heure avec ce nouveau livre, contrairement à Super Sad Love Story, donc on ne peut pas se rassurer. Avec cette fresque, Gary Steingart, vous voulez nous désespérer sur l'Amérique ou nous rassurer peut-être sur le fond d'humanité qui est encore présent dans sa population?
J'aimerais bien nous rassurer au sujet de l'humanité.
I was born in the Soviet Union.
Je suis né dans l'Union soviétique.
I am a sap, a Soviet Ashkenazi pessimist.
Je suis un pessimiste ashkénaze soviétique. So, un PAS, dirons-nous en français.
So for me, when I started writing this
Donc
book
quand j'ai commencé
2016,
à écrire ce livre en 2016,
I had no idea that
j'avais aucune
Trump
idée
was going to win.
Du fait que Trump allait remporter l'élection.
We thought he was a joke.
On pensait que c'était une plaisanterie.
So I took this bus journey from
Donc,
September,
j'ai pris
from
ce
June
voyage
of
2016 en car de juin 2016 jusqu'en septembre. Je suis allé traverser
and when
les
I got
États-Unis
on the bus,
en car.
I thought,
et quand je suis monté dans ce car, je me suis dit,
the election will be this background
bon,
joke,
ça sera une sorte de plaisanterie en arrière-plan, cette élection, parce qu'à l'évidence, il ne va pas la remporter.
But everyone on the bus kept
mais
saying,
toute
you're
personne
wrong.
Sur
He's going to win.
Le car disait, mais t'as tort, il va la remporter.
And so I discovered that between
et donc,
New York and San Francisco,
entre New York
there's
et San Francisco,
a whole other country.
Il y a tout un autre pays.
And when I got off the bus, I was
quand
looking
je suis descendu
for a car, real estate in Canada. I thought,
je
this is the end.
Cherchais un appartement au Canada parce que je me suis dit, ça c'est la fin, ça y est.
Voilà, il faut m'exiler. Vous l'exilez, vous avez songé à vous ré-exiler encore.
Yes. My parents and I have had a difficult
Mes parents
relationship,
et moi avons eu une relation
but they did one very
difficile.
Smart thing.
Mais ils ont fait un truc vachement malin.
They knew when to leave.
Ils savaient, ils ont su à quel moment partir.
And now that I have a six-year-old
et
son
maintenant
myself,
que j'ai un fils de 6 ans moi-même,
I have to make sure that
je dois
he
m'assurer
does not grow up in another dictatorship,
qu'il ne grandit pas au sein d'une nouvelle dictature,
which is a possibility in America.
Ce qui est encore une possibilité aux États-Unis.
Vous y pensez sérieusement, ça? Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de lui, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Là, je parle du regard français. Je ne sais pas si vous partagez d'ailleurs mon regard, Pierre Lemaitre. Mais là, on en parle assez moins. On est devenu habitué, finalement, à ses excès, finalement, et à ses contradictions. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Lemaitre?
Oui, c'est étonnant la manière dont, finalement, on arrive à composer avec le réel. Le réel nous offre sans arrêt des surprises auxquelles on n'ose pas croire lorsqu'ils surviennent. Et puis, au fond, on s'y habitue assez vite. Et nous-mêmes, en France, il n'y a pas que dans l'Amérique de Trump, décrit par Gary. Nous-mêmes, nous avons admis des glissements dans le fonctionnement de notre démocratie, le fonctionnement de notre République. Et en fait, on ne trouve pas tant de révolte que ça devant des glissements qui, pourtant, nous conduisent vers des extrêmes que nous repérons clairement, que nous ne voulons pas, mais contre lesquels nous nous battons peu.
Vous êtes vraiment sérieux, Gary Steingart, quand vous parlez de dictature, quand même, potentielle?
With the history that I have and my family
bien,
has,
vous savez que I understand that things change. Je comprends, je sais que les choses changent.
America always thought of itself as the
L'Amérique
great guarantor
s'est toujours
of liberty
considéré
and
comme le grand garant
always liberty, liberty, liberty.
De la liberté.
But you know, things
liberté,
change like that.
Liberté, liberté, mais les choses changent comme ça en un claquement de doigts, très rapidement.
And right now, this is a very angry country.
C'est un pays qui est très en colère.
When I got on this bus,
quand je suis monté dans ce car,
my middle class New York life,
de ma vie de New York, de la classe moyenne,
I was shocked by the poverty
j'ai été
I saw.
Choqué par la pauvreté que j'y ai vue.
There were parts of Mississippi and
Il y a
Alabama
eu des parties du Mississippi, de l'Alabama,
that looked like Havana.
qui semblait être comme la Havane.
It's a developing country in,
comme
in
un
many
pays
parts.
En voie de développement.
And people are very angry.
Et les gens sont très très en colère.
And when people are angry,
et quand
they
les gens
are
sont en colère,
ready to listen to anybody
ils sont prêts à écouter n'importe qui leur offre une mauvaise solution, une fausse solution.
And we've obviously seen this in Europe,
et on l'a vu en Europe, à l'évidence, au cours du dernier siècle.
No reason it won't happen in
Il n'y a pas de raison que
either.
Ça ne se produise pas dans un autre pays.
Alors précisément, on va en parler avec vous, Pierre Lemaître, parce que d'abord merci à Gary Steingart et à Pierre Lemaître d'avoir accepté de se rencontrer voilà, dans ce temps des écrivains. Et c'est vrai que j'ai été heureux de vous réunir parce que vous êtes l'un et l'autre de grands architectes en fait, du roman, de la structure aussi. Beaucoup d'ampleur, beaucoup de péripéties, beaucoup d'humour en fait. Et vos deux livres, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, sont assez prisés justement de ceux qui veulent en faire autre chose que des livres, donc les porter à l'écran. Ce sont aussi vos deux livres de road trip, dirait-on, si on était en Angleterre, on pourrait dire de voyage sur la route, en fait. D'un côté, sur les routes de l'Amérique contemporaine avec Lake Success de Gary Steingart, et de l'autre, donc non pas dans un bus Greyhound, mais dans une antique Peugeot 90S, terne comme un miroir de deuil, écrivez-vous, Pierre Lemaître, donc sur les routes de la débâcle de 40. Stendhal disait du roman qu'il devait être un miroir qui se promène sur une grande route. Est-ce que se déplacer et faire se déplacer les personnages, c'est le meilleur moyen, au fond, pour embrasser une époque et lui donner la fresque qu'elle mérite, comme vous le faites, Pierre Lemaître?
Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que le roman a cette plasticité qui fait qu'on est, je crois, capable de brasser une grande partie du monde avec un personnage qui serait seul dans sa chambre et qui y resterait. Je pense que c'est une des grandes qualités, je crois, du roman, d'être capable, justement, de proposer l'ampleur romanesque à partir d'un lieu qui peut être extrêmement exigu. Le meilleur exemple, c'est Marcel Proust. Au fond, qu'est-ce qui va nous prendre une micro-société extrêmement réduite, mais il va la visiter d'une manière verticale, de manière absolument abyssale et prodigieuse. Donc, j'aurais tendance à penser que le voyage est une des modalités possibles, mais loin d'être ni la meilleure, ni la seule.
Est-ce que le fait que vous ayez justement choisi là le voyage, en fait, pour ce nouveau livre, et le fait que vous plantiez l'action en 1940, est-ce que au fond, c'est pas aussi parce que, comme le disait un petit peu Gary Steingart, mais lui, il le dit frontalement, il veut embrasser cette Amérique pré-Trump, pour un peu presque la sonder, quoi. Quelle est cette Amérique qui a voté Trump et qui a permis son élection? Est-ce que vous, quand on regarde le livre, on parle de désinformation? On parle de complotisme, on parle de la question des réfugiés, on parle de solidarité, on parle même de violence légitime, je mets des guillemets, on parle de racisme. Est-ce que ce roman, bien que situé dans la France de 40, prend justement les allures du voyage parce qu'il s'agit aussi de sonder peut-être un pays qui pourrait être aussi celui d'aujourd'hui?
J'ai envie de répondre avec beaucoup de prudence à cette question, Christophe, parce que j'ai l'impression que, prenez n'importe quelle période de l'histoire, elle aura toujours des résonances avec aujourd'hui. Parce que je crois qu'il y a une espèce de fond d'humanité qui fait que si j'écris un livre qui se passe sous l'Égypte ancienne, on se dira certainement « Oh, c'était déjà comme ça hein !» Dès qu'il y a eu de l'argent, il y a eu des voleurs. Dès qu'il y a eu un État, il y a eu du fisc.
Des impôts,
et donc
exactement.
Des fraudeurs. Bon, donc c'est vieux comme le monde. Ouais. Et dès qu'il y a eu des hommes et des femmes, il y a eu de la prostitution, ouais. Des mariages.
Je pense au thème, le complotisme, désinformation, les fake news par exemple.
J'ai bien entendu votre question, je ne m'éprends pas. Ce que je veux souligner surtout, c'est que comparaison n'est pas raison. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il est du ressort de l'écrivain et de sa responsabilité d'isoler parmi les différentes résonances possibles entre la période qu'il traite et aujourd'hui, de savoir quel point commun il va élire narrativement et comment il va les traiter. Ça, c'est sa responsabilité. Donc, j'ai envie de dire, des résonances, elles sont inévitables. Le travail de l'écrivain, c'est de les trier, de les sélectionner, de choisir celles sur lesquelles il a envie de dire quelque chose.
À dessein, alors.
À
vraiment,
dessein, tout
ouais,
à fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que, prenons le cas, par exemple, des fake news ou de la désinformation, du mensonge d'État. C'est vrai que ça m'a beaucoup frappé dans la documentation de me rendre compte qu'à cette époque-là, le mensonge est élevé au rang de la vérité étatique. On voit que 48 heures avant la débâcle complète, on continue d'avoir des communiqués triomphants qui sont vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle absolument terrible. Donc, c'était étonnant et je trouve assez parlant de se rendre compte qu'au fond, la désinformation, elle avait une histoire et que de temps en temps, elle n'est pas simplement le fait des complotistes, des individus, mais elle peut naître directement du plus haut sommet de l'État.
Oui, Trump n'a pas inventé finalement...
Trump, alors je suis désolé de prendre... à Trump cette paternité, je suis prêt à la lui rendre parce que quand même il ment un peu plus que les autres.
Oui, c'est ça.
It's incredible, you know. So I grew up in the Soviet Union.
Moi, j'ai grandi dans l'Union soviétique. Tout était des fake news. La Pravda, la vérité en fait, c'était des fausses informations.
Oui, Pravda, c'est la vérité.
But at the same time, I have many Russian followers on Facebook.
J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook.
And they are now repeating the fake news that comes out of the Kremlin.
Et ils répètent les fausses nouvelles qui viennent du Kremlin.
And these are immigrants who fled
et ce sont des immigrants qui ont fui l'Union soviétique.
And now they're doing the same thing they were doing
et font la même chose qu'ils faisaient il y a 40 ans.
So yes, everything is repetition.
C'est ça. Tout est une répétition.
But I will say that
mais je voudrais dire aussi
there's something wonderful about travel.
Il y a quelque chose de merveilleux sur le voyage en tant que format d'écriture.
I love Proust. I love all asthmatics.
Proust. J'aime tous les asthmatiques.
Being one myself.
Je le suis aussi.
But I have to say, when you're
mais
traveling,
je dois dire que quand on voyage
and you're writing and traveling
et
at the same time,
écrit en voyageant,
you're more alone than you ever are.
Vous êtes plus isolé, plus seul que vous ne l'êtes
even
jamais.
When you are in your own room,
même
you
quand
know
vous êtes dans
room.
Votre propre chambre, parce que vous connaissez votre chambre. Vous savez tout ce qui se passe dans votre chambre.
But when you're traveling, you
et quand
all of a sudden find yourself
soudain,
facing yourself.
Vous êtes face à vous-même.
Now this is not a memoir, of course.
C'est pas des mémoires, hein, ce bouquin.
But I wrote most of it, most of the book, while on the road.
J'ai écrit la plus grande partie de ce livre quand j'étais en route.
And I would picture my billionaire protagonist sitting there.
Je dépeignais mon milliardaire, mon personnage, face aux pauvres.
And facing the new realities of America.
Face aux nouvelles réalités de l'Amérique.
And that to me was very helpful.
Et pour moi, ça c'était vraiment très utile.
And sometimes when I would talk to fellow passengers, I would try to talk as Barry
Cohen. J'essayais de leur parler comme si j'étais Barry Cohen, mon personnage.
Yes, I even changed my accent.
J'ai changé mon accent même.
So I it almost was becoming like an actor.
Je me suis senti un petit peu comme un acteur pour voir les réactions des gens.
On dirait un peu Sacha Baron Cohen dans son histoire, un petit peu.
I love Sacha Baron Cohen.
J'adore Sacha Baron Cohen.
He almost has the same name.
Il a le même
nom. Ça ne m'a pas échappé.
Qu'est-ce qui vous intéresse, Pierre Lemaitre, dans le cinéma? Est-ce que vous avez travaillé, vous aussi, comme Gary Steingart, qui a travaillé aussi sur ces projets-là? C'est pas seulement des droits que vous cédez, c'est que vous travaillez sur ces nouvelles vies, finalement, de vos fictions. Qu'est-ce qui vous intéresse que vous ne trouvez pas, justement, dans le roman, pour se dire, tiens, j'ai envie aussi de travailler?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le cinéma et la série télé, parce que c'est pas du tout le même travail. J'ai l'impression que la série télé est le chaînon manquant entre le roman et le cinéma. C'est-à-dire, il a la longueur, le format,
oui,
qui permet l'ampleur, qui permet justement d'épouser l'ampleur romanesque. Mmh. Et donc, j'ai l'impression que c'était vraiment ce qui nous manquait, nous autres romanciers. Mmh. Je trouve que c'est pas vraiment un hasard si les romanciers se sont beaucoup précipités. Je pense à The Wire, où on a trouvé Dennis Lehane, où on a trouvé Richard Price, par exemple, etc., ou David Pelecanos, par exemple. C'est pas un hasard si les romanciers sont allés là, parce qu'ils trouvent dans la série, grâce au format long, c'est un film de 6 heures, de 8 heures, de 15 heures, de 30 heures, trouvent l'ampleur romanesque qui est leur pain quotidien lorsqu'ils ont la chance d'être aux commandes de leur roman et qu'ils y sont seuls. Le seul problème, la seule grande différence, c'est que c'est un art collectif où tout le monde donne son avis. Mmh. Vous connaissez l'adage, hein, dans le cinéma, tout le monde a deux métiers, le sien et scénariste.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, là, vous faites référence aussi à cette tradition du feuilleton, en fait, qui était,
tout à fait,
voilà, qui permettait aussi cette ampleur. Et vous, Gary, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'idée, non pas seulement de céder des droits de vos fictions pour qu'ils deviennent des films ou des séries, mais d'y travailler aussi? Comme writer, comme on dit, voilà.
Yes, and I am working on, I'm writing some of these scripts.
J'écris certains
Big
de
Success.
Ces scénarios pour Big Success.
I've also worked on other television series.
J'ai travaillé aussi sur d'autres séries télévisées.
I don't know if it's popular in France.
Je sais pas si c'est connu en France. Succession de HBO.
Ah oui, bah, formidable.
Yeah.
Ah oui.
I think of TV, especially in America.
Je pense que la télé, particulièrement aux États-Unis, c'est une extension du format romanesque. Je sais que c'est très différent, bien sûr. Moi, j'écris dans un format, disons, comique, mais c'est toujours de la fiction littéraire.
And that's a strange category in America.
Et c'est une catégorie bizarre aux États-Unis en ce moment.
There's not a lot of people who
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent ça.
Pourquoi les gens ne veulent plus rire?
People who want to laugh watch television.
Mais les gens rigolent en regardant la télé.
And the people who want to scratch
Et les gens qui veulent se gratter la tête, eh ben,
Now,
ils lisent des romans.
There's some overlap here.
Il y a quelques tuilages un petit peu.
Je crois que,
comme vous le disiez, il y a une différence entre cinéma et télévision.
Le
cinéma, c'est comme une nouvelle. Mais vraiment, la série, c'est comme quelque chose, comme un roman extraordinaire. Et être dans une pièce avec 10 personnes brillantes, c'est assez extraordinaire.
On commence avec vous, Pierre Lemaître, et on va parler tout de suite de ce miroir de nos peines. Mais on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi la sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde Paris, Marin Marais. Voilà pourquoi.
Alors, on va mettre en facteur commun que je n'aime pas la musique. Mmh. Donc, quand vous me demandez une musique, ça, tout de suite, il faut que je puisse dans mes réserves, parce que je n'en achète pas, je n'en écoute pas. Et quand on en entend, j'essaie de la faire baisser. La musique m'emmerde. Bon, alors je sais que
pas
c'est
pas la vôtre, pas celle de vos mots et de vos phrases.
Non, moi, c'est pas de la musique, monsieur, voilà. C'est du style.
Ah
bon, j'espère que les auditeurs vont mettre des guillemets là où il en faut. Alors, non, Marin Marais, parce que c'est une musique très obsédante et ça correspond assez bien à l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où j'écris ce livre. En fait, je me dis, si j'avais écouté de la musique, je pense que c'est ce type de musique-là que j'aurais écouté, c'est-à-dire avec une basse répétitive, cette musique assez obsessionnelle, qui joue beaucoup à partir d'une variation sur des motifs relativement simples. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire simplement très bien, si je peux, des choses très simples.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Marin Marais, la sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde Paris, c'est le choix de Pierre Lemaître qui publie son nouveau roman chez Albin Michel, Miroir de nos peines, et il est dans ce studio avec Gary Steingart qui publie lui Lake Success aux éditions de l'Olivier, et évidemment Michel Zlotowski aussi son interprète. Vous disiez, Pierre Lemaître, que juste avant qu'on écoute Marin Marais, et qui expliquait pourquoi vous aviez choisi justement cette musique-là, bien que n'aimant pas la musique, que vous vouliez faire des choses très simples, finalement jouer avec des motifs très simples pour produire justement cette fresque. J'en dis un mot quand même de Miroir de nos peines, puisque c'est l'ultime tome de cette trilogie qui était entamée avec Au revoir là-haut, et qui nous raconte, au fond, avec une foule de personnages dont certains étaient de nous connus, puisqu'ils étaient dans les précédents livres, d'autres non, qui est une traversée absolument passionnante, pleine de péripéties et pleine aussi d'histoires, de données factuelles parfois très perturbantes, une traversée d'une France, miroir de nos peines, une France qui souffre, la France de 40, la France de la débâcle, avec cette grande particularité qu'on est dans l'histoire, on est vraiment en 40, on est avec Louise dans cette Peugeot qui traverse, on va de la ligne Maginot au grand ministère, on va dans les troquets, on va un peu partout. Il y a toujours une double quête, c'est-à-dire qu'il y a finalement un double mouvement, il y a le mouvement de l'histoire, et puis il y a aussi les mécanismes internes, ce que cherche les personnages. Un tel qui veut truander, l'autre qui veut trouver de qui elle est finalement la fille, peut-être. Et on a l'impression aussi que vous nous parlez, même si vous en avez parlé tout à l'heure et vous n'étiez pas tout à fait d'accord en tout cas, mais que vous nous parlez aussi de notre époque. Complotisme, intoxication d'État, fake news, on en parlait à cause de Donald Trump et de Gary Steingart. Et paranoïa, refus de l'étranger, migration aussi, puisqu'on est jeté sur les routes. Et moi, je voudrais savoir comment vous faites, quelle est votre méthode, puisqu'on a parlé un peu des séries là tout à l'heure, comment vous faites pour vous mettre dans la peau de ces personnages au parcours divers, au point de vue parfois opposé, y compris sur la guerre. Comment finalement vous êtes à la fois Désiré, qui change d'identité tout le temps, fonctionnaire du ministère de la Propagande, avocat, prêtre aussi, qui parle en latin. Vous êtes aussi Louise Belmont, vous êtes aussi Raoul, le trafiquant. Comment vous faites? Il y a des fiches, comme faisait Balzac, par exemple, pour savoir qui dit quoi, comment parle chacun. Comment vous faites?
Alors, il y a deux niveaux pour répondre à votre question. Il y a un premier niveau qui est, j'ai envie de dire, l'instinct. Je pense que quand même un romancier, c'est quelqu'un qui a une certaine qualité de raconter des histoires, une certaine plasticité psychologique lui permettant de se mettre un moment à la place d'un personnage et de pouvoir en changer. Puis après, il y a un deuxième niveau qui est un niveau extrêmement technique. C'est-à-dire, vous parliez de fiches, etc. Moi, je tiens, par exemple, un tableur avec la fréquence de mes personnages. C'est de la technique. C'est-à-dire, il y a une espèce de gestion pour que votre roman file, pour que le spectateur du film ne rencontre pas d'obstacles. Pour que tout ça soit lisse et que vous le conduisiez dans ce couloir, il faut fermer un certain nombre de portes, en ouvrir d'autres. Tout ça, c'est beaucoup de techniques. C'est une technique très artisanale, très simple, mais qui demande de la rigueur. Par exemple, j'ai dans mon roman 4 couloirs narratifs imperméables. Ça suppose la nécessité que chaque ligne narrative soit assez puissante pour que le lecteur ne lâche pas le livre.
Quel couloir? Est-ce que vous pouvez nous les...
Oui, alors, il y a un premier couloir avec Louise qui va à la recherche d'un secret de famille. Il y a un second couloir avec 2 militaires qu'on va suivre. Il y a un troisième couloir avec un personnage qui s'appelle Désiré et un autre qui s'appelle Fernand, qui est un garde mobile. Donc, on a 4 lignes narratives. Un jeu très traditionnel. Le lecteur va se demander à quel moment ces trajectoires vont converger. Le travail du romancier étant à la fois d'entretenir ce suspense le plus longtemps possible, mais en même temps de créer une certaine surprise, pour reprendre des termes hitchcockiens, une certaine surprise pour surprendre le lecteur sur la manière, le lieu et le moment où ils vont converger. Et tout ça, c'est de la technique. C'est-à-dire, il faut prendre du recul, il faut faire de la gestion. J'aime beaucoup la façon dont vous avez tout à l'heure présenté un petit peu ce travail en parlant de structure. Moi, je suis un homme obsédé par la structure, la structure de mes personnages, la structure de la narration, la structure du chapitre, la structure... Vous voyez, c'est une obsession. Je crois que ça fait partie des qualités qu'on peut me reconnaître, ce souci. Alors après, on aime ou on n'aime pas mes livres, on a tout à fait évidemment le droit.
Vous avez parlé de style tout à l'heure en me disant non, vous alors, mettrez des guillemets.
Mais vous avez mis des guillemets.
Mais c'est important aussi la langue choisit. Mais vous voulez qu'elle soit simple, enfin, c'est ça que vous
Oui, alors faire très bien des choses très simples, qu'est-ce que c'est? Je me suis rendu compte, moi, que quand je corrige, je vais toujours vers la simplification. En fait, dès que j'écris, bon, j'ai un premier jet déjà qui est catastrophique, donc dès que j'écris, déjà, c'est pas bon, c'est même franchement mauvais. Donc, il faut retravailler beaucoup pour que ce soit à peu près présentable. Et je me rends compte, en fait, qu'il faut sans arrêt simplifier, il faut sans arrêt remettre l'histoire dans le droit fil du personnage. On a tendance toujours dans le roman à s'égarer un peu, se rappeler toujours qu'il faut rester dans le fil de l'histoire, faire très bien des choses très simples.
Oui, parce que vous n'avez pas mentionné ce cinquième couloir par rapport aux 4 lignes narratives que vous appelez des couloirs, leur couloir de nage, c'est vrai qu'ils sont leur couloir de nage, ils vont se rencontrer un moment, vos personnages, mais ils sont tous pris dans la même, j'allais dire, la même piscine, le même bain, est l'histoire, le grand vent de l'histoire.
Tout à fait, et ils ne vont pas y réagir de la même manière parce que le sens de l'histoire leur échappe. Au fond, ces personnages sont pris dans l'histoire parce que nous les regardons avec 50 ans de recul, mais eux, c'est simplement leur actualité, leur quotidien. Donc eux, ils ne réagissent pas en fonction du sens de l'histoire, mais à partir des fragments de la réalité qu'ils croient percevoir et qu'ils essaient d'interpréter interprétée pas trop mal. Mmh. En fait, ils essayent de se débrouiller, quoi, simplement. Mmh. C'est ce qu'on vont faire les 10 millions de personnes qui vont se retrouver sur les routes. Et vous voyez, vous parliez tout à l'heure de la technique romanesque comparée à la technique du scénario. Ce que m'a appris notamment le travail sur le scénario, c'est justement la simplicité. Ne pas s'égarer, ne pas se faire plaisir en racontant quelque chose, mais être au service de sa propre histoire, simplement pour être sûr que ce que vous racontez, c'est bien ce que vous vouliez faire. Mmh. Et ça, le cinéma, la télévision sont des arts majeurs pour nous permettre de nous resserrer en permanence sur l'essentiel de notre projet.
Vous ne voulez pas vous perdre vous-même, découvrir des choses qui n'étaient pas prévues, des accidents.
Alors, il y a des accidents, mais je les intègre, c'est-à-dire j'accepte les accidents. Ouais. Désiré est né d'un accident. Hein. Donc, j'accepte très volontiers l'accident. Mais,
un accident désiré.
Oui, c'est un accident. c'est pour cela que je l'ai appelé désiré. Ouais, hein, ouais. Voilà. Donc, je peux admettre l'accident, mais simplement, je n'accepte de lui faire de la place dans le roman qu'à la condition que cet accident serve mon histoire, ouais, et non pas serve mon ego, mon plaisir de raconter, ou voilà. J'essaie de travailler avec un petit peu de rigueur, et une fois que j'ai cette rigueur, je peux laisser libre cours à mon plaisir de faire rire le lecteur, de m'amuser moi-même. Je suis un écrivain assez jubilatoire, mais pour jubiler, il faut avoir une bonne structure d'abord.
Alors on va vous écouter, Pierre Lemaitre, lire un extrait. J'ai choisi là de parler du grand bain. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de précision extrêmement exigeant, et là ça va même jusqu'au filtre qui était utilisé pour filtrer les gaz ennemis, les appareils de filtrage, parce que on est là sur la ligne Maginot. Et voilà, on vous écoute. Voilà.
Hein, on est donc dans un fort de la ligne Maginot. Les filtres, alignés par rang de 20, se présentaient comme de gros fûts en acier inoxydable. Leur allure débonnaire d'énormes pots à lait était loin de rassurer Gabriel. Il ne voyait dans ces filtres censés protéger d'une attaque au gaz de combat que des sentinelles inquiètes et pétrifiées. Vu de près, la ligne Maginot, composée de centaines de forts et de blocos destinés à s'opposer à une éventuelle invasion allemande, semblait terriblement vulnérable. Le Meyenberg, lui-même l'un des plus importants ouvrages de cette ligne de défense, avait des faiblesses de vieillard. À l'abri des balles et des obus, sa population militaire pouvait périr tout entière, asphyxiée. « Ah, vous voilà, chef ?» demanda le soldat de garde Goguenard. Gabriel s'essuya les mains sur son pantalon. Il avait 30 ans, des cheveux bruns et des yeux ronds qui lui donnaient un visage perpétuellement étonné. « Je passais, bien sûr !» dit le soldat en s'éloignant. À chacun de ses quarts, il voyait passer le jeune sergent chef. Gabriel ne pouvait s'empêcher de venir regarder ses filtres, vérifier qu'ils étaient toujours là. Le caporal-chef Landrade, lui, avait expliqué combien le système permettait de détecter l'oxyde de carbone et l'hydrogène arsénié était rudimentaire et simpliste. En réalité, disait-il, tout reposera sur l'odorat des sentinelles, faut espérer que ce soit pas en rue, mais c'est tout. Soldat du génie, la Raoul Landrade était technicien en électricité, il annonçait les mauvaises nouvelles et colportait les rumeurs délétères avec une précision empreinte de fatalisme. Sachant combien le risque d'une attaque chimique perturbait Gabriel, il ne manquait jamais une occasion de l'informer de tout ce qu'il apprenait, à croire qu'il le faisait exprès. Tiens, tenez, la veille encore. Ils ont prévu que les filtres saturés soient rechargés au fur et à mesure. Mais moi, je peux te dire une chose, hein. On les rechargera jamais assez vite pour protéger tout le fort, hein. C'est garanti.
Merci.
Ça m'amuse cette lecture parce que on va découvrir que le personnage est asthmatique et qu'il a quelques raisons d'être méfiant. Donc, considérez-le comme un hommage,
voilà. Dit Pierre Lemaitre. Voilà. Hommage. C'est une émission placée sous le signe de l'asthme aussi. Il y a beaucoup, d'écrivains. L'asthme et les écrivains, il y a eu un essai là-dessus. Alors, c'est drôle, tout à l'heure, je citais une phrase du livre Lake Success de Gary Steingart, qui parlait de l'Amérique comme plongée dans l'ennui d'un pays belliqueux sans véritable guerre à livrer. Ce roman, Pierre Lemaitre, c'est l'histoire d'un pays qui est gagné justement par la guerre. Pour le coup, la guerre, elle est là. Mais on a l'impression que ce qui vous intéresse, c'est plus la notion de crise, plus que la guerre elle-même et l'occupation, c'est ce qu'on en fait, c'est cette situation de basculement, d'effilochage tout.
Le terme d'effilochage, je le trouvais très juste. Ce que j'essaye de montrer, c'est au fond une population qui a perdu tous ses repères. Hein, les repères qui sont fabriqués par l'image qu'ils ont de l'armée qui a gagné la guerre précédente, donc on pense que ce sont des militaires performants, on a confiance dans l'État et dans la parole de l'État, on a confiance dans les édiles qui dirigent le pays, et d'un seul coup, en quelques jours, tout va se déliter et tous les repères vont disparaître et on va avoir des gens d'autant plus perdus qu'ils sont sur le chemin de l'exode, c'est-à-dire sur un chemin, une sorte de chemin sans fin et on ne sait pas vraiment où on va, et avec une perte totale de repères, on ne sait plus ce qu'il est juste de penser, on ne sait plus ce qu'il faut penser du monde qui nous entoure et dans lequel on était plongé et dans lequel la veille encore on ne se posait aucune question, et ça ressemble beaucoup à aujourd'hui.
Mais justement, Gary Steingart, quand Pierre Lemaitre dit ça, voilà, on ne sait plus ce qu'il faut penser. Est-ce que c'est ça qui explique aussi la motivation de votre personnage, donc financier ultra blindé, hein, qui gère 2,4 milliards d'actifs? Est-ce que c'est ça qui explique sa volonté de tout lâcher pour aller à la recherche de ce que Orson Welles aurait appelé son « Rosebud », c'est-à-dire cet amour de jeunesse, la maison des parents où il a connu cette fille, de tout lâcher pour monter, lui qui voyage en jet, dans un Greyhound, c'est-à-dire le transport le plus populaire d'ailleurs. Vous remerciez d'ailleurs la compagnie Greyhound à la fin du livre. Est-ce que c'est ça qui explique ça? Un moment où on ne sait plus ce qu'on doit penser. Et au fond, Trump, malheureusement, a apporté une réponse.
Well, to add to, we were talking about war earlier. I mean,
on parlait de la guerre précédemment.
In America, we love a good war.
En Amérique, on aime bien les bonnes guerres.
A war we can win,
but une guerre qu'on peut gagner.
If we don't have a war,
mais si on n'a pas de guerre,
then the war is against
alors
ourselves.
À ce moment-là, c'est une guerre contre nous-mêmes.
And that's the best war we can do.
Et c'est la meilleure guerre que l'on puisse mener.
And that's what Trump basically said. He said we're not going to fight abroad anymore. We're not going to get involved in other wars.
À l'étranger, on ne sera pas impliqué dans
d'autres guerres. We're going to fight a war against people already in the country.
On va se battre contre des gens qui sont déjà dans le pays, que ce soit des musulmans, des juifs, des homosexuels, ou des Mexicains,
or very poor people,
ou des très pauvres.
Trump basically said, I hate poor people.
A dit finalement, je hais
Let's
les pauvres.
Join me in this war against the poor.
Rejoignez-moi dans cette guerre contre les pauvres.
And so when I was thinking of a character,
et ce
I thought,
à quoi
why
je pensais
not make him
en tant que
rich
personnage,
as I
pourquoi
can
ne pas le faire aussi riche que possible?
Now, luckily, I live in Manhattan.
Heureusement, je vis à Manhattan.
All of my friends who were
tous mes amis,
writers,
journalistes, écrivains, ou des gens dans le graphisme, ils sont déjà partis depuis longtemps, ils ne pouvaient plus se le permettre.
When I walk down the street,
quand je sors dans la rue, tout le monde est millionnaire.
So I decided I'm going to make
Donc,
friends
je me suis dit,
people.
Je vais me lier d'amitié avec ces gens-là.
Oui, parce que vous avez fait vous-même le voyage que fait votre héros. Vous êtes monté, vous le disiez tout à l'heure, dans un Greyhound. Pourquoi c'était important, justement, de le faire, vraiment, et de choisir ce mode de transport-là?
You know, some writers have a good imagination.
Vous savez, certains écrivains ont une bonne imagination.
I don't.
Moi, non.
I need to be there and
Moi,
see
il faut
it
que
happen.
Je sois sur place et voir que les choses se produisent.
And it was shocking. I mean,
et c'était choquant.
The moment you get on the bus,
à la seconde où vous montez dans ce
car, surrender all your rights.
Vous abandonnez tous vos droits.
Because only poor people take
Parce
the bus.
Qu'il n'y a que des pauvres qui prennent ce genre de
Many
bus.
People have just left prison or a mental
les gens qui
hospital.
Sortent de prison ou un HP, un hôpital psychiatrique.
And the driver immediately treats you like you're still a prisoner.
Soudain, le conducteur du bus vous considère comme si vous étiez encore prisonnier.
He declares, you can't say these things.
Ah, vous ne pouvez pas dire ces choses-là
you
ou ces choses-là.
Can't eat certain things.
Vous ne pouvez pas manger telle ou telle chose.
You know, and it's incredible that
Et c'est incroyable.
Listen.
Les gens
Everyone
obéissent.
Sits there listening.
Tout le monde est là, assis dans le car
Because
et obéit.
To being told what
parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur dise quoi faire.
And I realized how militaristic
et je me suis rendu compte à quel point notre société était militariste.
If you get to live in New York or
si vous habitez à New York ou à San Francisco
like Barry Cohen,
et que vous êtes riche comme mon personnage Barry Cohen, vous vivez une vie totalement différente. Vous ne devez pas faire face au fait que vous êtes tout le temps en train d'obéir à des ordres comme un soldat.
Je redis un mot quand même de Lake Success, Gary Steingart. Donc c'est l'histoire est très simple. Hein. Un homme richissime, donc Barry Cohen, homme aux 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, quitte son appartement de Manhattan. Il est ivre, il est un peu couvert de sang. Il a été blessé par sa femme et la nounou de son fils, qui est atteint d'autisme, qui s'appelle Shiva. En plus, elle est aussi une descendante d'immigrés de Bombay. Il est traqué par la police de la bourse aussi pour quelques opérations douteuses. Donc il a abandonné son téléphone et il part avec une valise pleine de montres de très très grand prix dans ce Greyhound en se disant « je vais revoir celle que j'aimais quand j'avais 19 ans, je veux à nouveau avoir 19 ans ». Et en fait on a l'impression que c'est un prétexte en fait, un prétexte narratif, alors c'est très très drôle, hein, pour documenter ce qu'est l'Amérique, pour produire une documentation. Il y a énormément de notations sur les gens, comment ils sont habillés, ce qu'ils disent. Il est content, Barry Cohen, d'avoir un bloc de crack qui ressemble à du parmesan, newborn parmesan. Alors, je ne sais pas comment d'ailleurs ils traduisent en français, newborn parmesan, parce que newborn, il y a le côté newborn Christians aussi, le côté... ressuscité. Voilà, du parmesan ressuscité. Bon, il est content d'avoir ça comme un trophée de cette Amérique qu'il ne connaissait pas. Et en fait, il y a sans arrêt des références littéraires aussi, parce que ce banquier, c'est quelqu'un qui a voulu être écrivain, qui a suivi un cours de creative writing à Princeton, qui a écrit une nouvelle qui raconte l'histoire d'un banquier qui revient au paradis et une sorte de nymphe sortie d'un tableau lui dit « c'est trop tard ». Il y a la littérature constamment mise en abîme, et puis... Il y a le côté, pardon, mais sur la route. Il y a le côté Fitzgerald. En fait, il a appelé son fonds d'investissement l'envers du capital, comme le premier roman de Scott Fitzgerald. Et il y a le côté sur la route, et il dit un jour, j'écrirai un sur la route, mais du point de vue d'un homme mûr. Est-ce que, au fond, ce Greyhound vous a servi de structure? On parlait de structure avec Pierre Lemaître. D'une structure très simple pour inventer, au fond, un nouveau roman, une nouvelle façon de faire pour vous, parce que vous travaillez pas comme ça d'habitude.
I agree with you.
Je suis d'accord avec Pierre.
Simpler is better.
Le plus simple, c'est le mieux.
If you can find a structure,
si vous pouvez trouver une structure qui vous facilite la communication avec le lecteur, ben pourquoi pas l'apprendre. Je n'ai jamais ajouté de la complexité pour simplement paraître plus intelligent, plus malin. Non. L'idée, ben, je vais prendre un personnage qui va monter dans un car à New York et qui va descendre en Californie, c'est tout. Et puis chaque chapitre suivant, c'est l'épouse et le fils autiste qu'il a laissé derrière lui. Donc, on voit l'homme qui fuit et les conséquences de sa fuite.
Mais précisément, Gary Steingart, ça crée un roman à deux vitesses. Alors, je dis vitesse parce qu'on est dans un Greyhound. Il y a le côté ultra speedé, ultra déboussolant de la partie donc Barry Cohen, qui rencontre des gens qui le font halluciner, qui découvrent un pays qu'il ne connaît pas. Et puis, il y a le côté assez sage, finalement, de Sima qui reste... à Manhattan, qui reste en fait dans son monde. Donc ça fait vraiment deux vitesses. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, il faut que je fasse attention parce que je ne peux pas à chaque fois faire descendre, baisser de régime, quoi?
Yes, I was very worried about
j'étais très conscient de ça.
Barry B, the rocket taking off,
Barry B, la fusée qui décollait, et puis Sima, la femme qui restait au foyer. Donc j'ai mis en place une structure très simple, utilisée par beaucoup de romans, y compris Madame Bovary. Eh bien, j'ai fait en sorte qu'elle ait une relation amoureuse.
And I have her have an affair with a very pretentious
avec qui
writer.
Avec un écrivain extrêmement prétentieux.
And I know many pretentious writers.
Et j'en connais beaucoup.
Perhaps I am myself
peut-être
a pretentious
que moi-même,
writer.
Je suis un écrivain prétentieux.
But to add some structure
mais
to
pour
her story,
ajouter une structure à son histoire,
but the other part of the research was
et l'autre
into
partie
autism,
de la recherche, c'était sur l'autisme.
Because many of the people
parce que beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient des géants des fonds de couverture, c'était des gens qui voulaient avoir la femme parfaite, l'enfant parfait, l'appartement parfait, mais beaucoup avaient des enfants handicapés, y compris autistes, et ils ne savaient pas quoi en faire. Parce que même si vous dépensez 100 millions de dollars, votre fils restera toujours autiste. Et pour moi, c'était la différence entre quelqu'un comme Sima, l'épouse qui est réaliste et qui comprend que son fils est différent, mais que ça reste son fils. Et quelqu'un comme Barry qui dit ben, « je ne peux pas m'en occuper, il faut que je redécouvre qui je suis » parce qu'en Amérique, tout le monde a droit à une deuxième vie. Non, ça ne suffit pas d'être milliardaire. Je dois être quelqu'un, un créateur génial.
« Je veux me réfugier en Amérique aussi », dit-il aussi. C'était une fresque que vous vouliez faire aussi, donner cette fresque de cette Amérique qui manquait peut-être à ces dernières années, un sur la route aussi à votre façon. Finalement, est-ce que c'est Barry Cohen qui rêve de Kerouac ou c'est Gary Steingart qui rêve de Kerouac?
Well, you notice that Barry and Gary are
Barry, Gary, vous savez.
And Sacha Baron Cohen.
And Sacha Baron.
Sacha Baron.
C'est drôle parce que Pierre Lemaître consacre une fresque à la France donc en 1940, à un moment donné. La notion de temps, d'histoire est absolument centrale. Et vous, vous mettez en scène un personnage qui voyage avec des montres. et qui parle de bibliothèque, mais aussi d'un montrarium, un endroit où on montrerait des montres. C'est drôle, d'ailleurs, en français, montrer des montres, c'est le même, c'est la même expression. Quel est le sens, en fait, de ces objets qui vont lui servir, finalement, à peut-être redonner de l'ordre ?
La question au sujet de Barry que beaucoup de critiques littéraires ont posé, c'est est-ce qu'il est autiste lui-même, par hasard ? Peut-être pas de la façon dont l'est son fils, parce que son fils ne peut pas s'exprimer oralement, verbalement, mais Barry pense de façon obsessionnelle à ses montres et à un point du livre, il construit sa propre, il reconstruit sa propre montre. Personnellement, j'aime les montres parce que ce sont des objets extrêmement mélancoliques. On porte quelque chose qui vous dit que vous allez bientôt mourir. Et je crois qu'il y a quelque chose de très romantique de ce point de vue-là.
De toute façon, ce qui est très intéressant aussi avec ces deux livres, c'est que Pierre Lemaître, vous êtes plus du côté de, je dirais, de l'épopée. C'est-à-dire, s'il faut tisser des fils, on irait du côté d'Homère, on irait l'idée le portrait d'une société à un moment donné, avec ses mythes, hein, aussi, vous en parliez tout à l'heure avec Désiré. Et on a l'impression, de votre côté, Gary Steingart, qu'on est, alors, on serait plus chez Virgile. C'est-à-dire, finalement, retourner à l'âge d'or, hein. C'est un peu cette image. C'est intéressant, ça, de...
C'est dur, je sais pas comment Gary va prendre le rapprochement entre lui et Virgile. Moi, personnellement, je prends comme assez flatteur le rapprochement que vous avez bien voulu faire avec Homer. Je me méprends pas, vous voyez, je...
Oui, non, c'est-à-dire dans la filiation, c'est-à-dire le tableau d'une époque.
Oui, oui.
Alors, et d'une guerre. Oui. Et d'une guerre.
Ce que j'entends dans, oui, j'entends ce que vous dites. Ce que j'entends dans ce que dit Gary, c'est qu'au fond, lui, avec son Greyhound, qui est un moment très actuel de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, c'est une histoire qui peut se passer il y a 24 heures, il y a 48 heures. Enfin, on est vraiment dans l'instant présent. Malgré tout, le fait de monter dans ce bus et de rencontrer la population et de voir le paysage crée une sorte d'étonnement parce qu'au fond, il découvre à travers ce véhicule un pays qu'il redécouvre, qu'il connaissait mal et en fait dont il perçoit tout de suite les lignes de fracture. Dans mon livre, je fais un petit peu le chemin inverse, hein, puisque on est dans un moment exceptionnel et non pas dans un moment habituel. C'est l'exode n'est pas, on ne prend pas l'exode comme on prend le Greyhound. Vous voyez, donc, c'est un moment par définition exceptionnel. Et ce qui va créer l'étonnement, c'est pas tellement de voir le pays qu'on va découvrir, c'est de découvrir comment on réagit dans des situations exceptionnelles.
Ouais,
mais il y a quelque chose aussi d'assez différent et peut-être qui rend la rencontre peut-être intéressant pour les auditeurs entre Gary et moi. C'est que, au fond, moi, j'écris sur des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Définition très Hitchcockienne, hein, du roman. Alors que lui, il nous prend un personnage qui est extraordinairement riche, donc qui fait partie de l'élite et qui d'un seul coup, par ce voyage-là, va se frotter au fond à un monde antinomique avec le sien. Donc je trouve que c'est intéressant peut-être de regarder ces deux livres côte à côte.
Exactement.
Le rapprochement est assez
voilà, c'est pour ça que j'étais content de vous réunir. Oui. Et quand je disais oui, Homer, je parlais la geste. Il y a un côté geste dans votre livre, de grandes gestes, de la débâcle, cette étrange défaite, comme l'appelait Marc Bloch, à qui vous donnez maintenant un visage romanesque aussi. Il y a chez Homer aussi des particularités, des deuils personnels aussi. Il y a les grandes armées, mais il y a aussi l'amour.
Bien sûr.
Il y a aussi les histoires d'amour ratées, d'ailleurs, même chez les post-homériques. Oui. Et le côté virgilien, j'en parlais pour Gary, parce que il y a cette fable centrale qui est en fait mise en abîme de cet homme qui dit, en fait, je suis passé à côté de ma vie et je vois enfin la promesse d'une vie réussie. Et cette femme qui incarne la promesse lui dit, it's too late. C'est trop tard.
And what's interesting is I used to teach
at Princeton. Et moi, j'ai enseigné à Princeton, à l'université de Princeton.
Goes into finance.
À Princeton, tout le monde sort pour devenir millionnaire financier dans la finance. Et j'enseignais à ces enfants.
All of them would write the story that's in the book.
Tous écrivaient tous l'histoire sur la façon dont ils allaient commencer à travailler pour Goldman Sachs et Citibank et que leur vie serait horrible et qu'ils devraient revenir dans le temps, retrouver leur ancienne petite amie et l'épouser.
Je leur disais,
si vous le savez déjà que votre vie sera horrible, pourquoi est-ce que vous allez travailler pour Citibank? Faites autre chose. Et comme des lemmings qui doivent sauter de la falaise, ils ont continué à le faire. C'était dingue.
Je lis juste un petit passage, Gary Steingart, pour montrer aussi l'humour du livre. Je ne vais pas vous demander de lire à vous, parce que c'est une traduction de vos mots. C'est une discussion entre Barry et un ami. Ils viennent de boire l'équivalent, dit-il, de 23 000 dollars de Karuizawa, un whisky japonais extrêmement précieux. Et il a cette phrase. Je trouve que les gens s'attardent trop sur notre rémunération, dit Barry. Bon, évidemment, on gagne beaucoup comparé à d'autres, mais l'argent est un peu notre carte de score. On ne gagne pas de prix littéraire, le Pulitzer ou je ne sais quoi, et notre volume de vente ne se mesure pas. Il marqua volontairement une pause comme pour rappeler à l'écrivain son classement sur Amazon, parce que l'autre écrivain est très mal classé hein, sur Amazon. Donc c'est l'argent qui détermine le nom du vainqueur. Mais ces richesses ne pourraient-elles pas être mieux redistribuées si une fois que vous aviez gagné 30 millions, on vous remettait une médaille, on vous disait « vous avez gagné ». Le reste serait donné aux pauvres. Non, je pars du principe que la plupart des pauvres ne sauraient quoi faire de tout cet argent, dit Barry, d'une voix beaucoup trop forte, galvanisée par l'alcool. Ils sont très peu informés et la richesse peut déboussoler. En un sens, il faut se préparer à être riche. Et là, Sima, sa femme, se tourne vers lui. Et je m'arrête là, parce que c'est un livre très cruel, mais qui fait du bien parce qu'il est cruel et qui dit les choses qu'on veut entendre. Je voudrais, pour terminer cette émission, vous poser une question. Autre point commun, c'est pas que je cherche des points communs absolument, mais a priori, vous êtes très différents, vous ne vous connaissiez pas. Mais alors, vous donnez dans le vintage, vous terminez votre livre par un épilogue. Alors ça, l'épilogue, moi je l'avais dans les livres que je lisais quand j'étais enfant, et je suis très surpris de voir que c'est vintage, j'aime hein, aussi ce qui est vintage. Pourquoi Pierre Lemaitre un épilogue?
Alors, parce que dans le type de roman que j'écris, moi j'écris des romans d'aventure, j'arrête le roman à un moment où les personnages n'ont pas entièrement terminé leur trajectoire romanesque. Donc il me paraît, je dirais, bon pour le lecteur de savoir en fait comment l'histoire se termine longtemps après. Ou alors je fais un deuxième tome qui va faire à nouveau 400 pages pour faire ça, et je préfère économiser l'énergie du lecteur qui a déjà, c'est déjà infusé, oui, 500 pages, et donc je le fais en une douzaine. Ça me paraît une politesse vis-à-vis du lecteur.
Et puis un clin d'œil aussi à la grande tradition du roman.
Voilà, aussi ouais. Un clin d'œil. Il y en a beaucoup. Par exemple, vous vous aurez peut-être rendu compte que tous les personnages portent le nom d'un personnage de Proust.
Oui, oui, mais ça, c'est le grand Proustien, effectivement, qui parle Pierre Lemaitre. Parce que vous êtes non seulement un grand auteur de polar, aussi, ça, là, on n'est pas dans le polar, mais aussi un spécialiste de Proust.
Ah, je suis un Proustien, un Proustophile.
Voilà. Et vous, l'épilogue, Gary Steingart?
Look, I love epilogues.
J'adore les épilogues. Je suis d'accord.
I wish life had an epilogue.
J'aimerais bien que la vie ait aussi un épilogue.
Elle en aura un, rassurez-vous.
Qui est un épilogue.
Voilà.
I believe one reason I love books.
Une raison pour laquelle j'aime les livres.
It's a very old technology.
C'est une très ancienne technologie. On a des technologies beaucoup plus avancées aujourd'hui. Et pourtant, ça permet au lecteur de rentrer dans la conscience d'un autre être humain. C'est quelque chose vraiment qui... C'est Star Trek.
Hein,
c'est une fusion de l'esprit. Quelles que soient les nouvelles technologies, il n'y a rien de tel.
Mais
l'auteur doit aussi avoir l'empathie pour pouvoir entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, un milliardaire, quelqu'un à bord d'un Greyhound. Il faut se former pour pouvoir penser comme quelqu'un d'autre.
Dans la vie des écrivains, il y a aussi un épilogue, et ça s'appelle la postérité. Et ça s'appelle la postérité, et c'est pas forcément toujours une très bonne nouvelle.
Oui, et puis, contrairement à l'épilogue, c'est pas l'écrivain qui l'écrit.
Voilà. C'est très injuste.
We have no control.
On a aucun contrôle.
C'est très injuste.
Voilà, merci vraiment à tous les deux voilà, pour cette première émission de l'année. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter beaucoup de succès aussi, Lake Success, voilà. Beaucoup de succès pour ce livre, Pierre Lemaitre,
merci
voilà,
beaucoup,
Miroir de nos peines. Et pour Lake Success aussi de Gary Steingart. Donc, Miroir de nos peines, c'est chez Albin Michel. Et Gary Steingart, Lake Success, c'est aux éditions de l'Olivier. Et je mentionne quand même, le traducteur, c'est important, c'est Stéphane Rock qui vous a traduit. Je vous remercie tous les deux. Merci Pierre Lemaitre.
Merci beaucoup.
Merci Gary Steingart.
Et merci Michel Zlotowski pour avoir été l'interprète de l'interprète, j'ai presque dit. Vous avez un côté prêtre, Michel. Voilà, et vous me bénissez. Je vous remercie. Heureusement, les auditrices et les auditeurs ne voient pas ce geste que vous faites. Merci à vous. C'était le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Lidvine Caron à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Vous pouvez podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission en compagnie de Pierre Lemaître et Gary Stengart. Bonne année à toutes et à tous. Dernier cadeau de Gary Stengart, son choix musical, vous avez choisi l'international dans sa version russe. Pourquoi nous faire écouter ça, Gary Stengart? C'est pour la nouvelle année qui vient?
J'avais 6 ans quand j'ai entendu l'international à Leningrad. Et l'année dernière, j'étais sur le balcon de mon hôtel à Paris avec mon fils qui a 6 ans. Et les manifestants passaient, ceux qui étaient en grève, et ils chantaient l'international. Et j'ai dit à mon fils, j'ai entendu ça quand j'ai eu 6 ans, moi aussi, dans une autre partie de l'Europe. Et j'ai essayé de lui enseigner la version russe.
Ça vous plaît, Pierre Lemaître?
Beaucoup.
Bon, voilà, l'international pour terminer cette émission. Merci, Pierre Lemaître. Merci, Gary Stengart. Merci, Michel Zlotowski.